Chapitre 39. Une visite de Verin Sedai.
Tu n'as jamais tenu le bâton des serments,
accusa Egwene, toujours debout près du placard. Verin resta au bord du lit et continua à boire son infusion. Vêtue d'une robe marron très simple qui faisait vraiment vieille dame, la sœur Replète portait à la taille une large ceinture de cuir. La jupe divisée et les bottes boueuses qui en émergeaient indiquaient qu'elle venait tout juste d'arriver.
« Ne sois pas stupide !»
lâcha-t-elle, tout en remettant en place une mèche échappée de son chignon de cheveux bruns mêlés de gris.
« J'ai tenu le bâton des serments et prononcé les serments bien avant la naissance de ta grand-mère. »«
Dans ce cas, tu as été libéré des serments. » »«
C'est possible, en utilisant de nouveau le bâton. » Yukiri, Saïrin et les autres s'étaient bien débarrassés de leurs serments pour les prêter de nouveau.
« Eh bien, oui, »
fit Verin d'un ton maternel.
« Je ne te fais pas confiance, »
lâcha Egwene.
« Et c'est ainsi depuis toujours. »«
C'est bien vu, ça, »
souffla Verin avant de boire un peu d'infusion, un arôme qui ne disait rien à Egwene.
« Après tout, je suis de l'âge noir. »
Egwene frissonna comme si un éclat de glace venait de s'enfoncer dans son dos, cherchant son cœur. L'âge noir, Verin était une sœur noire. Egwene voulut s'unir à la source, mais avec la fourche racine, elle n'y parvint pas. Et dire qu'elle avait insisté pour qu'on lui en fasse boire, quelle mouche l'avait donc piquée? Pleine de confiance après sa victoire, elle n'avait pas envisagé de se retrouver face à une sœur noire. Mais qui aurait anticipé ça? Trouver assise sur son lit une sœur qui buvait une infusion et qui vous regardait avec des yeux qui, de tout temps, avaient semblé en avoir vu plus que n'importe quels autres. Quelle meilleure couverture que l'identité d'une banale sœur marron sous-estimée par toutes ses collègues à cause de sa distraction d'érudite.
« C'est une excellente infusion, »
dit Verin.
« Quand tu reverras la race, remercie-le de ma part de m'en avoir fourni. Elle prétendait en avoir une réserve pas pourrie, mais je ne l'ai pas cru. Ces derniers temps, on se méfie de tout, pas vrai ?»«
La race est un suppôt de ténèbres ?»
s'étrangla Egwene.
« Non, bien sûr que non. » Elle est beaucoup de choses, mais pas ça. Tu trouveras plus facilement un fils de la lumière disposé à épouser une Aes Sedai qu'une Laras prête à jurer fidélité au grand seigneur. Une femme extraordinaire, avec un nez infaillible en matière d'infusion.
« Que vas-tu me faire ?»
demanda Egwene, se forçant à garder son calme. Si Verin avait voulu la tuer, ça aurait été déjà fait. Donc, elle voulait l'utiliser, et ça, c'était une bonne nouvelle. Egwene aurait tôt ou tard une ouverture pour s'enfuir ou pour retourner la situation. Cela dit, ça tombait vraiment mal.
Pour commencer, je vais te demander de t'asseoir. Ensuite, je t'offrirai bien à boire, mais je doute que tu veuilles goûter mon infusion.
Réfléchis, Egwene,
s'exhorta la chère d'Amerline des rebelles. Appeler à l'aide aurait été inutile. En l'absence des harpies rouges, seuls des novices auraient entendu. Pour une fois qu'elle n'avait personne sur le dos, et voilà qu'elle le regrettait. De toute façon, si elle criait, Verin la ligoterait et la bâillonnerait avec des flux d'air. Et si des novices accouraient quand même, elle serait à la merci de la sœur noire. Egwene tira l'unique tabouret de sa chambre et s'assit en face de Verin. Son postérieur meurtri s'insurgea, mais elle n'avait pas de coussin. La cellule était paisible, froide et sans âme. Normal, après avoir été inoccupée pendant 4 jours. En quête d'une façon de s'en tirer, Egwene dut se rendre à l'évidence. Il n'en avait pas.
Je dois te féliciter pour ce que tu as fait ici, ma fille. Même si j'ai décidé de ne pas m'impliquer, j'ai suivi de loin les grotesques affrontements entre les factions de sœurs. Continuer mes recherches et garder un œil sur le jeune Altor était beaucoup plus important. Ce garçon est sacrément fougueux, et je m'inquiète pour lui. Tu sais, je ne suis pas sûr qu'il comprenne comment raisonne le grand seigneur. Tous les êtres maléfiques ne sont pas aussi transparents que les élus. Enfin, les rejetés, comme on les appelle dans l'autre camp.
Transparents, les rejetés?
Par comparaison, oui.
Verin sourit et se réchauffa les mains en serrant sa tasse.
Les élus sont une bande de gosses chamailleurs. Chacun essaie de crier plus fort que les autres pour attirer l'attention de leur père. Savoir ce qu'ils veulent est un jeu d'enfant. Le pouvoir sur les autres marmots, pour prouver qu'ils sont importants. Je suis convaincu que ce ne sont pas l'intelligence, l'habileté ou les compétences qui caractérisent les élus. Ils n'en sont pas dépourvus, mais le trait essentiel chez eux, c'est l'égoïsme. C'est cette qualité que le grand seigneur cherche chez ses principaux lieutenants.
Et Gwen n'en crut pas ses oreilles. Était-elle vraiment en train de discuter des rejetés avec une sœur noire?
Pourquoi privilégierait-il cette qualité?
Parce que ça rend ses sbires prévisibles. Un outil dont on connaît par avance le fonctionnement est bien plus utile qu'un instrument qui fait n'importe quoi. En outre, quand des lieutenants luttent les uns contre les autres, seuls les plus forts survivent. Honnêtement, je ne suis pas sûr d'avoir la bonne réponse.
Alors que les élus sont prévisibles, le grand seigneur ne l'est pas du tout. Après des années d'observation, je ne sais toujours pas ce qu'il veut, ni pourquoi il le veut. Mais j'ai une certitude. Cette bataille ne sera pas livrée comme le croit Altor.
Quel rapport avec moi?
Demanda Egwene.
Presque aucun,
admit Verin avec un petit mouvement de tête.
La digression, c'est mon péché mignon. Inexcusable quand on a si peu de temps. Il faudrait que je me corrige.
Verin ressemblait toujours à l'agréable érudite de l'âge marron. Depuis toujours, Egwene pensait que les sœurs noires étaient différentes.
Bon,
continua Verin.
Nous parlions de ce que tu as fait ici. En arrivant, je craignais de te trouver encore avec tes fichus rebelles. Imagine ma surprise quand j'ai découvert que tu t'étais infiltré dans le fief des Laïda, convainquant la moitié de son hall de lui tourner le dos. Tu as mécontenté certaines de mes... associées. Elles ne te félicitent pas, tu peux me croire.
Verin, je...
commença Egwene.
Pourquoi? Nous n'avons pas le temps.
Verin se pencha en avant. Soudain, quelque chose en elle changea. Si elle restait la femme âgée et parfois maternelle qu'avait connue Egwene, une dimension s'ajoutait aux autres, la détermination. Quand elle eut accroché le regard d'Egwene, celle-ci en frémit de surprise. Était-ce vraiment la même personne?
Merci d'avoir supporté les radotages d'une vieille femme,
dit-elle.
J'ai adoré notre conversation autour d'une tasse d'infusion. Mais il y a certaines choses que tu dois connaître. Il y a des années, j'ai dû prendre une décision. Pour résumer, je pouvais jurer fidélité aux ténébreux ou révéler que je n'avais jamais voulu ni même envisager de le faire. Dans le second cas, j'aurais été exécuté. Une autre sœur aurait peut-être trouvé un moyen de s'en sortir. Beaucoup d'entre elles, j'en suis certaine, auraient opté pour la mort. Moi, j'ai tenu ce dilemme pour une chance. On a rarement l'occasion d'étudier un monstre de l'intérieur et de voir ce qui fait couler son sang. De découvrir à quoi sont reliées les artères et les veines. Une expérience extraordinaire.
Un instant,
s'écria Egwene.
Tu as rejoint l'âge noir pour l'analyser?
Non, pour sauver ma peau. Figure-toi que je m'aime bien, même si Thomas me taquine tout le temps avec mes cheveux blancs. Mais après ce ralliement forcé, j'ai saisi l'occasion d'en apprendre plus sur nos ennemis.
Thomas, il sait ce que tu as fait?
Il était un suppôt des ténèbres, mon enfant, en quête d'un moyen de s'enfuir. Mais il n'y en a pas vraiment, une fois que le grand seigneur tient quelqu'un entre ses griffes. En revanche, il y a toujours une façon de lutter et de se racheter. J'ai offert cette possibilité à Thomas, et je crois qu'il m'en a été reconnaissant.
Et Gwen essaya de récapituler. Verin était bien un suppôt, et en même temps, elle n'en était pas un.
Tu as dit qu'il m'en a été reconnaissant. Pourquoi parler de lui au passé?
Avant de répondre, Verin but une autre gorgée d'infusion.
Les serments qu'on prête au grand seigneur sont très particuliers. Et quand ils sont prononcés par une personne capable de canaliser, ils deviennent des liens impossibles à briser. On peut tromper d'autres suppôts, voire se retourner contre les élus si on a de bonnes raisons. Mais il est impossible d'être déloyal au grand seigneur. Pareillement, impossible de trahir son camp au bénéfice de gens extérieurs. Oui, les serments sont particuliers. Hautement particuliers, même.
Verin chercha le regard d'Egwene.
J'ai juré d'être fidèle aux ténébreux et de garder mes secrets jusqu'à l'heure de ma mort. Voilà ce que j'ai promis. Tu comprends?
Et Gwen baissa les yeux sur la tasse encore fumante de Verin.
Du poison?
Il faut une infusion très spéciale pour rendre buvable la racine aspic. Comme je l'ai déjà dit, remercie la race pour moi.
Et Gwen ferma les yeux. Nineveh avait mentionné ce poison devant elle. Pour tuer, une goutte suffisait. Une mort rapide et paisible, environ une heure après ingestion de la substance.
Une curieuse faille dans ses serments,
dit Verin.
Permettre à quelqu'un de trahir quand sa dernière heure approche. Je me demande si le grand seigneur est au courant. N'obstruerait-il pas cette brèche?
Il ne la juge peut-être pas menaçante,
avança Egwene. Elle ouvrit les yeux.
Après tout, quel suppôt se suiciderait pour faire avancer la cause du bien? Ce n'est pas le genre de chose qu'on attend de monstres pareils.
Tu as peut-être raison,
admit Verin en posant sa tasse à côté d'elle.
Je ne saurais trop t'inciter à prendre toutes les précautions avec cette infusion, mon enfant.
Ainsi, c'est fini pour toi? Et qu'en est-il de Thomas?
Nous nous sommes dit adieu. Il passe sa dernière heure en famille.
Et Gwen secoua la tête, bouleversée par une telle tragédie.
Tu es venu me voir pour te confesser puis mourir en guise de rédemption?
Rédemption? Ce n'est pas si facile à gagner, petite. La lumière sait que j'en ai fait assez pour mériter une forme spéciale de rédemption. Mais le jeu en valait la chandelle. Vraiment. Ou est-ce plutôt une consolation dont je me suis persuadé?
Dessous la couverture pliée des Gwen, Vérine tira un paquet soigneusement ficelé. Quand elle eut dénoué les lanières, la sœur marron brandit deux objets. Des livres reliés de cuir. L'un était assez grand, comme un ouvrage de référence, mais ne portait pas de titre sur sa couverture rouge. L'autre était un petit ouvrage bleu. Tous les deux semblaient un peu usés, après avoir été trop souvent consultés. Vérine tendit les livres à Egwen. Non sans hésiter, celle-ci les prit, le rouge dans la main droite et le bleu dans la gauche. Après avoir éprouvé le cuir lisse du bout des index, elle regarda Vérine, le front plissé.
« Dans l'âge à marron, »
dit Vérine,
« chaque femme rêve de produire quelque chose qui lui survivra. Des recherches ou une étude qui ait un sens profond. Les autres sœurs nous accusent souvent d'ignorer le monde. Allez en croire, nous regardons toujours en arrière. Eh bien, c'est faux. Si nous sommes distraites, c'est parce que nous regardons loin devant nous, au contraire. Et tout ce que nous savons, nous vous le laissons en héritage. Les autres âges luttent pour rendre le présent meilleur. Nous, c'est le futur qui nous intéresse. »
Et Gwen posa l'ouvrage bleu et ouvrit le rouge. Sur les pages, elle reconnut la petite écriture efficace et nette de Vérine. Aucune phrase n'avait de sens. Du charabia.
« Le livre bleu est la clé du code, »
expliqua Vérine.
« Avec, tu pourras déchiffrer le rouge. L'œuvre de ma vie, petite. »«
Qui contient quoi ?»
demanda Egwen, même si elle se doutait de la réponse.
« Des noms, des lieux et des explications. Tout ce que j'ai appris sur eux, sur l'âge à noir et les chefs des suppôts. Les prophéties qu'ils tiennent pour vraies, les buts et les motivations de chaque faction. Avec en annexe une liste de toutes les sœurs noires que je connais.
Toutes les sœurs?
Non, certaines ont dû m'échapper. Mais je pense en avoir démasqué beaucoup, la majorité même. Crois-moi, Egwen, quand j'ai mordu un os, je ne le lâche pas.
Stupéfié, Egwen baissa les yeux sur le livre. Incroyable. Un trésor supérieur à toutes les salles du coffre des rois. Et aussi précieux que le corps de Valère. La chair d'Amyrline des rebelles releva les yeux. Des larmes en perlant, elle imagina une vie entière passée avec les sœurs noires, sans cesser de les observer et de tout graver dans sa mémoire. Une œuvre titanesque pour le bien de tous.
« Ne t'apitoie pas sur moi, »
dit Vérine. Elle pâlissait à vue d'œil.
« Nos ennemis ont infiltré tant d'agents parmi nous, tels des vers qui rongent un fruit de l'intérieur. » J'ai pensé qu'on devait leur rendre l'appareil. Ce défi vaut bien la vie d'une femme. Peu de gens ont eu la chance de léguer au monde un travail aussi utile. Nous cherchons tout à changer l'avenir, Egwen. J'ai une bonne chance d'avoir réussi.
Vérine inspira à fond et porta une main à sa tête.
Eh bien, ça agit vraiment vite. Il me reste une chose à te dire. Ouvre de nouveau le livre rouge.
Et Gwen obéit et découvrit une fine lanière de cuir lestée d'un peu d'acier. Un marque-page, mais plus long que la moyenne.
Enroule-le autour du livre, marque la page que tu veux, puis pose les deux extrémités sur la couverture.
Et Gwen choisit une page au hasard et referma le livre rouge. Ayant compris où Vérine voulait en venir, elle posa le bleu dessus, puis refit le paquet tel que Vérine le lui avait montré. Remarquant que les lestes, aux deux bouts de la lanière, étaient faits pour s'encastrer l'un dans l'autre, elle les connecta. Aussitôt, les ouvrages disparurent. Et Gwen écarquilla les yeux. Elle sentait toujours le poids des livres dans ses mains, mais elle ne les voyait plus.
« Ça fonctionne seulement avec les livres, »
dit Vérine en bâillant.
« Durant l'âge des légendes, quelqu'un devait tenir à dissimuler son journal intime. »
La sœur marron sourit, mais elle était blafarde à présent.
« Merci, Vérine, »
dit Egwen en défaisant le paquet à l'aveugle. Les deux ouvrages réapparurent.
« J'aurais aimé que ça se termine autrement.
J'avoue que le poison n'était pas mon premier plan. La mort ne me tente pas, et j'ai encore des choses à faire. Par bonheur,
J'ai pu mettre tout ça en mouvement, au cas où je ne reviendrai pas. Ces projets se feront sans moi.
Cela dit, mon plan préféré était de subtiliser le bâton des serments, afin d'essayer de me libérer du grand seigneur.
Mais cet artefact est introuvable, semble-t-il.
Saerine et les autres,
pensa Egwen.
Elles ont dû l'emprunter de nouveau.
Je suis désolé, Vérine. Ça n'aurait peut-être pas fonctionné de toute façon.
Vérine s'allongea et glissa l'oreiller sous sa tête.
Le protocole des serments prêtés au grand seigneur est lui aussi très particulier. J'aurais aimé percer à jour un autre mystère, mon enfant. Une élue s'est infiltrée à la tour. C'est Messa Anna, j'en suis certaine. J'espérais te révéler sous quelle identité elle se cache, mais les deux fois où je l'ai rencontrée, elle était occultée à un tel point que je ne l'ai pas reconnue. Ce que j'ai vu, cependant, est consigné dans le livre rouge. Regarde bien où tu mets les pieds, et quand tu frapperas, sois prudente. Faut-il coincer toutes les sœurs noires, ou neutraliser d'abord les plus importantes en secret? Ce sera à toi de décider. Tu peux aussi choisir de les observer et de ruiner leurs plans. Un bon interrogatoire pourrait répondre à des énigmes que je n'ai pas pu résoudre. Pour une sœur si jeune, tu auras tant de choix à faire.
Vérine bâilla, puis tressaillit, de douleur sans doute. Et Gwen se leva et vint à son chevet.
Merci, Vérine. Merci de m'avoir choisi pour porter ce fardeau. Tu t'es très bien débrouillée avec les premiers indices que je t'ai donnés. Une situation très intéressante. La chère dame Irline m'avait chargé de te fournir des informations sur les sœurs noires qui avaient fui la tour, afin que tu puisses les traquer. J'ai dû obéir, même si la direction de la Jeanne Noire n'a pas apprécié. Je n'étais pas censé te remettre le Terangréal onirique, sais-tu? Mais j'ai toujours eu de la sympathie pour toi. Je ne suis pas sûr de mériter tant de confiance,
fit Egwen, baissant les yeux sur le livre rouge.
Pas sûr du tout. Ne dis pas de bêtises.
Vérine bâilla de nouveau et ferma les yeux.
Tu seras bientôt la seule et unique chère dame Irline. Je n'en doute pas un instant. Et une dirigeante doit être bardée de connaissances. Les lui fournir est un des devoirs sacrés de la Jamaron. C'est d'ailleurs au monde entier qu'il doit ce service. Je suis encore une sœur de cet Aja. S'il te plaît, fais-le savoir à mes collègues, afin que le mot noir n'entache pas mon nom à jamais. Mon âme est restée marron du début à la fin. Dis-le-leur. Je le ferai, Vérine. Mais ton âme n'est pas marron. Je le vois.
La moribonde ouvrit les yeux, sonda le regard d'Egwen et tenta de froncer les sourcils.
Ton âme est d'un blanc immaculé, Vérine, comme la lumière.
Vérine sourit et ferma les yeux. La mort mettrait encore un peu de temps à venir, mais l'inconscience tomba comme un rideau sur une scène. Egwen s'assit et prit la main de la sœur marron. Elaïda et le hall attendraient. Le terrain bien préparé, venir dicter ses conditions maintenant aurait été un abus d'autorité. Après que le pouls de Vérine se fut arrêté, Egwen prit la tasse d'infusion empoisonnée et la posa sur le lit. Puis elle plaça la soucoupe sous les narines de la sœur. Pas de buée. Cette double vérification avait quelque chose de choquant, mais il existait des poisons qui plongeaient les gens dans un état de mort apparente alors qu'ils respiraient encore faiblement. Si Vérine avait voulu piéger Egwen en dénonçant les mauvaises sœurs, ça aurait été la bonne façon de procéder. Oui, une double vérification choquante. Egwen en fut honteuse, mais elle était la chair d'Amirline. Prête à faire ce qui était difficile et à ne négliger aucune possibilité. À l'évidence, aucune véritable sœur noire ne serait morte uniquement pour tromper quelqu'un. Dans son cœur, Egwen n'avait aucun doute. Mais son esprit, lui, exigeait des certitudes. Egwen jeta un coup d'œil à son petit bureau, sur lequel elle avait posé le livre. À cet instant, la porte de sa cellule s'ouvrit et une jeune Aes Sedai, nommée si récemment que ses traits n'avaient pas encore l'intemporalité habituelle, entra en trombe. Nommée Thourez, elle appartenait à l'Aja Rouge. Donc, on avait fini par affecter une harpie à la prisonnière. Sa liberté était terminée. Eh bien, pleurer sur le lait renversé n'avait jamais aidé personne. Et elle avait sacrément bien tiré parti de ce moment. Vérine aurait dû venir la voir une semaine plus tôt, mais là encore, ce qui était fait, était fait.
Thorez fronça les sourcils en découvrant la sœur marron, et Gwen plaqua un index sur ses lèvres et foudroya l'intruse du regard.
« Elle vient de revenir à la tour, et elle voulait me parler. C'est lié à une mission dont elle m'a chargé il y a longtemps, bien avant le schisme. Parfois, ses sœurs marrons sont fichtrement têtues. »
Pas un seul mot de faux, du premier au dernier.
Thorez approuva d'ailleurs du chef le commentaire sur les érudites.
« J'aurais aimé qu'elle aille s'étendre sur son propre lit. Franchement, je ne sais pas trop quoi en faire. »
Là encore, rien de mensonger. N'empêche, Egwene devait absolument se procurer le bâton des serments. Dans des circonstances pareilles, mentir aurait été bien pratique.
« Elle doit être fatiguée par son voyage, »
fit Thorez à voix basse, mais d'un ton ferme.
« Laisse-la faire ce qu'elle veut. C'est une sœur, et toi, tu es une vulgaire novice. Ne la dérange pas. »
Sur ces mots, la harpie rouge ferma la porte. Très fière d'elle, Egwene s'autorisa un petit sourire. Puis elle regarda le cadavre de sa visiteuse. Vérine. Et son sourire disparut. Tôt ou tard, elle devrait révéler la mort de sa visiteuse. Mais comment expliquer une chose pareille? Eh bien, il faudrait trouver quelque chose. Au pire, elle dirait la vérité. Avant tout, elle devait s'occuper du livre rouge. Les risques qu'on lui prenne étaient très élevés, même avec le terrangréal en forme de marque-page. Le livre bleu, il valait mieux qu'elle le cache ailleurs que le rouge. À moins de mémoriser le code puis de détruire le support. Tout ça aurait été plus facile à décider si elle avait su comment se passait la réunion du hall. Et Laïda était-elle destituée? Sylviana vivait-elle encore? Avec Thorez sur le dos, Egwene ne pourrait pas découvrir grand-chose. Il ne lui restait plus qu'à attendre, et à déchiffrer. Le code se révéla très complexe. Pour le comprendre, il fallait lire une grande partie de l'ouvrage bleu. Pas nécessairement une bonne nouvelle. Sans ce livre, il serait impossible de déchiffrer le rouge. Quant à mémoriser le code, ce serait infaisable, en tout cas en une seule nuit. Au matin, il faudrait bien révéler ce qui était arrivé à Vérine. Et Gwen regarda de nouveau la défunte. On aurait vraiment juré qu'elle dormait paisiblement. Pour que l'illusion soit parfaite, la jeune femme lui avait enlevé ses chaussures, les posant au pied du lit. Puis elle avait tiré la couverture jusqu'à son cou. Même si c'était irrespectueux, et Gwen décida de tourner Vérine sur un côté. Thorez, jetant régulièrement un coup d'œil dans la pièce, ce changement de position calmerait ses soupçons, s'il en avait. Cette tâche accomplie, Egwene regarda sa chandelle pour estimer le temps qui lui restait. Dans la cellule d'une novice, il n'y avait pas de fenêtre. En des circonstances normales, elle aurait tissé un globe lumineux pour s'éclairer. Là, elle allait devoir se contenter de la bougie. Décidée, elle s'attaqua au plus urgent, déchiffrer les noms des sœurs noires listées à la fin du livre. C'était capital, plus encore que de mémoriser le code. Savoir à qui elle pouvait faire confiance serait crucial dans les jours à venir. Les quelques heures suivantes comptèrent parmi les plus étranges et perturbantes de la jeune vie d'Egwene. Bien des noms lui étaient inconnus ou très vaguement familiers, mais il y avait dans le lot des femmes avec qui elle avait travaillé. Certaines lui avaient inspiré du respect, et une poignée lui avait semblé digne de confiance. Trouvant le nom de Catherine non loin de la tête de liste, Egwene lâcha un juron. Puis elle siffla de surprise en découvrant celui d'Alviarine. Elsa Penfell et Galina Casban, elle en avait entendu parler. En revanche, les noms qui figuraient autour des leurs ne lui disaient rien. L'estomac de la jeune chère d'Amerline se noua quand elle tomba sur le nom de Shyriam. À dire vrai, elle l'avait soupçonné. Mais ça remontait à l'époque où elle était encore novice, puis acceptée. En ce temps-là, où elle avait commencé à traquer les sœurs noires, la trahison de Liandrine était encore dans toutes les mémoires. Du coup, elle avait eu tendance à suspecter tout le monde. Durant l'exil à Salidar, elle avait travaillé avec Shyriam et appris à l'apprécier. Mais la traîtresse appartenait à l'âge noir. En d'autres termes, sa gardienne des chroniques servait le ténébreux.
« Prépare-toi au pire, Egwene. »
Dans la liste, il y avait sûrement des surprises encore plus terribles. Submergée de dégoût et d'amertume, la chère d'Amirline des rebelles se reprit vite en main. Dans sa position, les émotions ne devaient jamais prendre le pas sur le devoir. Les sœurs noires avaient essaimé dans tous les âges. Certaines siégeaient au hall, et d'autres étaient des Aes Sedai de second rang presque dépourvus de pouvoir. Près de 200 traîtresses, selon le compte de Vérine. 21 dans l'âge bleu, 28 dans le marron, 30 dans le gris, 38 dans le vert, 21 dans le jaune et, record stupéfiant, 48 dans le rouge. À ça, il fallait ajouter des acceptés et des novices. Sur ce sujet, le livre soulignait que ces femmes-là étaient des suppôts avant de rejoindre la tour, parce que l'âge noir recrutait exclusivement des Aes Sedai. Des explications étaient disponibles en début d'ouvrage, mais Gwen continua à scruter la liste. Elle devait connaître les noms de toutes ces femmes, c'était vital. Bien entendu, il y avait aussi des sœurs noires parmi les rebelles et même dans les rangs des non-alignés qui n'étaient pas à la tour au moment du schisme. À part Sheryam, le plus perturbant sur cette liste était de découvrir des représentantes actuellement en poste à la tour ou chez les rebelles. Douara Bassaïn, Velina Behar, Sedore Dajena, Delana Mosalein, bien sûr, et Talen Minli. Meidani avait laissé entendre à Egwene que Talen était la sœur noire démasquée par Saerin et son groupe, mais la traîtresse avait fui la tour. Moria Karentanis, membre de l'Âge Bleu et connue pour sa sagesse et son grand équilibre, cette femme portait le châle depuis plus de 100 ans. Egwene avait souvent parlé avec elle, s'enrichissant de son expérience. Une sœur bleue, s'était-elle dit, était la plus susceptible de la soutenir sans arrière-pensée. De fait, Moria avait milité pour son accession au poste suprême, puis s'était prononcée en sa faveur lors de plusieurs crises. Chaque nom s'enfonçait comme une épine dans la peau d'Egwene. Dagdara Finchet, qui l'avait guérie le jour où elle s'était foulée la cheville. Zanika, une de ses formatrices, et parmi les plus agréables. Larissa Lindell. Miyassi, pour qui elle avait ouvert des noix. Nessita, Nassel Kayama. Nalaen Forel qui, comme Elsa, était liée à Rand. Birlen Pena, Chai Rugan. Romanda et Lelaine ne figuraient pas sur la liste, ce qui avait quelque chose d'agaçant. En faire enchaîner une, voire les deux, aurait été une bonne chose. Pourquoi Sheryam et pas ce triste duo-là?
Ah si, Egwene, tu ne réfléchis pas rationnellement.
Souhaiter que certaines sœurs soient noires ne l'amènerait nulle part. Kat Soigné n'était pas sur la liste. Même chose pour les plus proches amis d'Egwene. Elle ne s'attendait pas à trouver leur nom, mais avoir confirmation de son intuition se révéla agréable. Les sœurs qui traquaient l'âge à noir à la tour étaient blanches comme neige. Même chose pour les espionnes envoyées depuis Salidar. Le nom d'Elaïda brillait lui aussi par son absence. Dans une note de bas de page, Vérine révélait avoir longtemps cherché des preuves de la corruption de l'usurpatrice. Mais des propos tenus par des sœurs noires l'avaient convaincue que ça ne mènerait à rien. Instable et tyrannique, Elaïda déplaisait aussi souvent à l'âge à noir qu'aux autres. C'était logique, hélas. Informé que Galina et Alviarin étaient des traîtresses, Egwene aurait parié qu'il en allait de même pour Elaïda. En réalité, la Janoire avait dû choisir une marionnette pour le poste suprême, lui collant ensuite une gardienne corrompue dans les pattes. Les sœurs noires avaient dû faire pression sur Elaïda par l'intermédiaire de Galina, probablement arrivée à la tête de la Jarouge, rouge, selon Vérine, ou d'Alviarin. Corrompant ou brutalisant l'usurpatrice, ces femmes l'avaient amenée à servir la Janoire sans le savoir. Sous cet éclairage, la chute vertigineuse d'Alviarin s'expliquait mieux. Était-elle allée trop loin, s'attirant la colère de sa supérieure? C'était possible, mais improuvable. Sauf si Elaïda se confessait ou si Egwene pouvait interroger Alviarin. Ce qu'elle avait l'intention de faire le plus vite possible. Alors que la bougie finissait de se consumer, Egwene referma le livre rouge. L'heure ayant beaucoup avancé, il était peut-être temps d'aller voir où en était le hall. Avant qu'Egwene ait décidé de la façon de s'y prendre, quelqu'un frappa à sa porte. À la hâte, la jeune chère d'Amerlin refit le paquet et les deux livres se volatilisèrent. Les coups à la porte signifiaient que la visiteuse n'était pas une des harpies rouges.
« Entrez !»
Le battant s'ouvrit pour laisser passer Nicolas, qui profita de sa minceur de liane pour se faufiler entre Thourez et le chambranle. La harpie parut contrariée qu'Egwene ait de la visite, mais l'assiette fumante que Nicolas portait sur un plateau expliquait pourquoi elle avait eu le droit de toquer. Sa robe blanche voltant autour des chevilles, Nicolas s'inclina devant Egwene.
« Pour Vérine Sedai, »
dit-elle en désignant le lit.
« Un ordre de la maîtresse des cuisines, quand elle a appris que Vérine Sedai revenait de voyage. »
Cachant son excitation, Egwene fit signe à Nicolas de poser son plateau sur la petite table. Nicolas approcha, s'exécuta et, en se penchant, murmura.
« Je dois te demander si tu lui fais confiance. »
« Oui, »
répondit Egwene. Pour que Thourez n'entende pas, elle avait reculé son tabouret. Donc, ses alliés ne savaient pas pour la mort de Vérine. Une bonne chose. Pour le moment, ce secret serait en sécurité. Nicolas acquiesça, puis elle haussa le ton.
« Ce serait bien qu'elle mange pendant que c'est encore chaud. Mais je te laisse décider. Tu ne veux pas la réveiller. Je dois te dire de ne pas toucher à ce plat. Je m'en garderai bien, sauf s'il s'avère qu'elle n'a pas besoin de se nourrir. »
répondit Egwene en se détournant. Quelques instants plus tard, la porte se referma sur Nicolas. En attendant que Thourez ait ouvert le battant et jeté son coup d'œil habituel dans la pièce, Egwene se débarbouilla, puis elle enfila une robe propre. Ensuite, presque sûre de ne pas être interrompue, elle saisit la cuillère et toucha à la soupe. Comme elle s'y attendait, elle y trouva une fiole qui contenait une feuille enroulée. Intelligent. Ses alliés avaient dû entendre parler de la visite de Vérine, et ils s'en étaient servis pour contacter leur chef.
et Gwen déroula le message, aussi bref qu'il était possible de l'être. « Attends. » La jeune femme soupira, consciente qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Cependant, elle n'osa pas reprendre le livre rouge et continuer sa lecture. Soudain, elle entendit dans le couloir ce qui ressemblait bien à une prise de bec. Puis on frappa de nouveau à la porte.
« Entrez !»
Meidani poussa le battant, se faufila dans la cellule et referma au nez de Thourez.
« Mère !»
salua Meidani avec une révérence. La mince Aes Sedai portait une robe grise un peu trop tendue sur son estimable poitrine. Avait-elle un dîner avec Elaïda prévu ce soir ?
Désolé de t'avoir fait attendre.
Et Gwen eut un geste nonchalant.
Comment as-tu convaincu mon Cerbère de te laisser passer ? Tout le monde sait qu'Elaïda me reçoit, souvent. De plus, les lois de la tour précisent qu'aucune prisonnière ne peut être privée de visite. Thourez a essayé, mais n'a pas réussi à empêcher une sœur d'aller voir une humble novice.
Meidani tourna la tête vers le lit et pâlit dès qu'elle vit Vérine. Avec son teint cireux, on ne pouvait plus croire que la sœur marron se reposait. Par bonheur, Thourez n'avait jamais vraiment examiné la dormeuse.
« Vérine Sedai est morte »,
annonça Egwen en jetant un coup d'œil vers la porte.
« Que s'est-il passé, mère? Elle t'a attaqué ?»« Vérine Sedai a été empoisonnée par un suppôt peu avant de parler avec moi. Elle le savait et a tenu à me communiquer des informations importantes. »
Là encore, rien de faux, puisque Vérine, en un sens, était bel et bien un suppôt. Étrange comme on pouvait mentir en disant la vérité.
« Lumière !»
s'écria Meidani.
« Un meurtre à la Tour Blanche ! Il faut donner l'alerte, appeler la garde et... Ce sera fait en temps utile !»
coupa Egwen.
« Calme-toi et baisse le ton. Je ne veux pas que Thourez nous entende. »
Meidani blêmit, puis regarda Egwen, se demandant sans doute comment elle pouvait être si dure. « Parfait. » Qu'elle voit devant elle une chair d'Amirline que rien ne pouvait ébranler, et qu'elle ne soupçonne pas à quel point le chagrin, la confusion et l'angoisse régnaient dans l'esprit d'Egwen.
« Compris, mère. Oui, je m'excuse. Tu m'apportes des nouvelles, j'imagine ? Oui, mère. Saerine m'a dit de venir te voir. Selon elle, tu brûles d'envie de savoir ce qui s'est passé. Elle a raison,
fit Egwen, en s'efforçant de ne pas trahir son impatience. Meidani y allait par quatre chemins. Quand on devait lutter contre l'âge noir, il n'y avait pas de temps à perdre.
Elaïda est toujours à son poste, mère, mais de justesse. Le hall l'a officiellement censuré, soulignant qu'une chair d'Amirline n'est pas un tyran. En conséquence, il lui est interdit de promulguer des décrets et d'exprimer des exigences avant d'avoir consulté les représentantes.
Et Gwen acquiesça.
Un grand classique.
Beaucoup de chairs d'Amirline enclines à l'autoritarisme avaient fini ainsi, réduites au statut de dirigeante de paille. Depuis longtemps, ça pendait au nez d'Elaïda. Et cette issue aurait été parfaite à un autre moment.
Sa pénitence ? 3 mois, mère. 1 pour ce qu'elle t'a fait, 2 pour avoir outrepassé ses prérogatives. Intéressant,
fit Egwen, pensive.
Certaines représentantes voulaient aller plus loin, mère. Un moment, on a cru qu'Elaïda serait destituée sur le champ. Tu as assisté à tout ça ?
Meidani acquiesça.
Elaïda a demandé une session privée, mais personne ne l'a soutenue. Je crois que son propre âge a tiré les ficelles. Les 3 représentantes rouges ont quitté la tour. Je me demande bien où sont Douhara et les 2 autres. Douhara, une sœur noire. Que prépare-t-elle ? Et les 2 autres, sont-elles ensemble ? Dans ce cas, il doit s'agir d'un trio de traîtresses.
Un problème à résoudre plus tard.
Comment Elaïda a-t-elle réagi ? Elle n'a pas dit grand-chose, mère. Pour l'essentiel, elle est restée assise à observer. Mais elle n'avait pas l'air contente. Et je me suis étonné qu'elle ne fasse pas un esclandre. Les sœurs rouges. Si elle a vraiment perdu le soutien de son Aja, on a dû la prévenir de ne pas faire de vagues. C'est ce que pense Saïrine. Elle croit aussi que ta volonté de ne pas voir disparaître l'Aja rouge, rendue publique par des novices qui t'ont entendu, a contribué à sauver Elaïda de la destitution. Eh bien, qu'elle soit renversée ne m'aurait pas gêné. Ce que je voulais, c'était préserver l'Aja rouge. Cela dit, tout ça est très bien. La chute d'Elaïda aura lieu quand elle ne risquera plus d'entraîner la tour avec elle.
Cela dit, si ça avait été possible, Egwen aurait volontiers retiré ses propos sur la sauvegarde de l'Aja rouge. Elle refusait que quiconque pense qu'elle avait soutenu l'usurpatrice.
J'imagine que la peine de Sylviana a été annulée ? Pas complètement, mère. Elle est en détention, en attendant que le hall statue sur son sort. Elle a défié la chair d'Amirline en public, et on parle d'une pénitence.
Egwen plissa le front. Tout ça empestait le compromis, sinon la compromission. Elaïda avait dû négocier avec la dirigeante de l'Aja rouge
qui que ce soit, maintenant que Galina s'était enfuie, pour mettre au point les détails de l'opération. Du coup, Sylviana serait quand même punie, mais moins sévèrement, et Elaïda se retrouverait sous la tutelle du hall. En d'autres termes, elle était sur un terrain glissant, mais elle pourrait encore avoir des exigences. Dans son propre aja, contrairement à ce qu'Egwen avait espéré, l'usurpatrice gardait des alliés. Pourtant, il fallait se féliciter de la tournure des événements. Sylviana vivrait et Egwen, semblait-il, reprendrait sa vie de novice. De plus, les représentantes s'étaient montrées assez mécontentes d'Elaïda pour la réprimander. Si on lui laissait un peu de temps, Egwen se faisait fort de provoquer la chute d'Elaïda et de lancer la réunification de la tour. Mais ce temps, l'avait-elle? Elle regarda la table où se trouvaient les deux livres invisibles. Si elle lançait un assaut massif contre l'Aja Noir, cela déclencherait-il une guerre généralisée? De quoi déstabiliser encore plus la tour? En outre, pouvait-elle espérer frapper toutes ces femmes simultanément? Pour décider, il lui faudrait un peu de temps. Pour l'heure, ça impliquait de rester à la tour et de miner le pouvoir d'Elaïda. Hélas, ça signifiait aussi de laisser en paix la plupart des sœurs noires. La plupart, mais pas toutes.
Meidani, tu dois aller voir les sœurs qui traquent l'Aja Noir. Il faut qu'elles capturent Alviarine et la mettent à l'épreuve du bâton des serments. Dis-leur de ne reculer devant aucun risque raisonnable pour y arriver.
Alviarine, mère? Pourquoi?
C'est une sœur noire,
répondit Egwen, l'estomac retourné.
Très proche de la tête de l'organisation, à la tour. Vérine est morte pour pouvoir me communiquer cette information.
Tu es sûre, mère?
Je ne doute pas de la fiabilité de Vérine. Cela dit, il serait bon que des sœurs libèrent Alviarine de ses serments, et lui fassent prêter à nouveau, et lui demandent si elle appartient à l'Aja Noir. Quelles que soient les charges pesant contre elle, tout Aes Sedai devra avoir cette chance d'établir son innocence. Vous avez le bâton des serments, j'imagine?
Oui.
Nous en avions besoin pour éprouver la loyauté de Nicolas. Saerine et les autres veulent intégrer des acceptés et des novices dans les rangs. Parce qu'elles sont à même de délivrer des messages, là où les sœurs ne peuvent pas aller.
Une sage décision, considérant les dissensions entre les Ajas.
Pourquoi elle et pas une autre?
Parce qu'elle parle souvent de toi à ses compagnes en blanc, mère. Parmi les novices, elle est ta plus fervente avocate.
Et Gwen trouva étrange d'entendre dire ça à propos d'une femme qui l'avait trahie. Mais tout bien pesé, Nicolas ne devait pas être blâmé pour ça.
On ne l'a pas laissé prêter les trois serments, bien sûr, puisqu'elle ne porte pas le châle. Mais elle a juré sur le bâton de ne plus mentir, puis déclaré qu'elle n'est pas une sœur noire. Après, on l'a libérée du serment.
Et toi, Meidani, es-tu libérée de ton quatrième serment?
La sœur sourit.
Oui, mère. Merci beaucoup.
Et Gwen acquiesça.
File maintenant, et transmets mon message. Il faut capturer Alviarine.
Elle regarda la dépouille de Vérine.
Hélas, je dois te demander de l'emmener avec toi. Si elle disparaît, je n'aurai pas besoin d'expliquer pourquoi elle est morte dans ma cellule. Mais, utilise un portail, ou plane, si tu ne connais pas assez bien cette zone.
Meidani acquiesça, puis s'unit à la source.
Avant d'ouvrir le portail, exécute un autre tissage,
dit Egwen.
Quelque chose qui demande une grande quantité de pouvoir. Peut-être un des 100 tissages qu'il faut réaliser en passant l'épreuve.
Meidani parut troublée, mais elle tissa un réseau très compliqué demandant beaucoup de pouvoir. Comme de juste, Thourez passa la tête dans la pièce pour découvrir de quoi il retournait. Par chance, les flux l'empêchèrent de voir le visage de Vérine. Mais ce n'était pas la dormeuse qui intéressait la harpie rouge. Bouche bée, elle contempla le tissage.
Meidani me montre certains tissages que je devrais maîtriser, si je dois passer l'épreuve. C'est interdit?
Thourez foudroya Egwen du regard, mais elle se retira et referma la porte.
Je voulais l'empêcher de voir le portail,
expliqua Egwen.
Dépêche-toi, à présent, et amène le cadavre. Quand Thourez reviendra fouiner, je lui dirai la stricte vérité. Vérine et toi êtes partis via un portail. Mais que faire de la dépouille?
Demanda Meidani.
Ce qui semblera le plus adapté,
marmonna Egwen.
Je te laisse trouver. Pour l'heure, j'ai d'autres chats à fouetter. Emporte la tasse, mais sois prudente, parce que l'infusion est empoisonnée.
Egwen regarda sa bougie, dont la cire débordait maintenant sur la table. Avec un soupir accablé, Meidani ouvrit un portail. Quand des flux d'air portèrent Vérine de l'autre côté, Egwen eut un pincement au cœur. Cette femme avait mérité 10 fois mieux. Un jour, tout le monde saurait ce qu'elle avait fait et combien elle avait souffert. Mais il faudrait attendre un peu. Quand Meidani fut partie, Egwen alluma une autre bougie. Puis elle s'étendit sur son lit en essayant de ne pas penser au cadavre qui l'occupait jusque-là. Se détendant, elle songea à Suwan,
qui ne tarderait plus à se coucher. Il fallait la prévenir, pour Shériam et les autres brebis galeuses. Quand elle ouvrit les yeux, Egwene se retrouva dans la version onirique de sa cellule de novice. Le lit fait, la porte était fermée. Après s'être vêtue en un clin d'œil d'une robe verte parfaite pour une chère d'Amirline, Egwene se dirigea vers le jardin printanier. Siouan n'y était pas, mais l'heure du rendez-vous n'avait pas encore sonné. Ici, aucune trace des détritus qui s'accumulaient dans les rues de Tarvalon, ni de la corruption qui pourrissait les racines de l'entente entre les Aja. Au gré de l'ascension et de la chute des chères d'Amirline, les jardiniers de la tour, inlassables comme le vent ou la pluie, plantaient, taillaient puis cueillaient des trésors végétaux. Bien plus petit que les autres jardins de la tour, ce mouchoir de poche se réduisait en fait à un triangle de terre et de verdure coincé entre deux murs. Dans une autre ville, cette niche aurait servi de remise, ou aurait été remplie de pierres. À la tour blanche, les deux possibilités étaient inenvisageables. La solution, créer un jardin miniature débordant de plantes capables de pousser dans la pénombre. Des hydrangées s'accrochaient aux murs et s'enroulaient autour des pots de fleurs. Des cœurs de Marie s'alignaient par rangées, leurs petits pétales roses accrochés à des tiges dont la plupart portaient encore un bourgeon à l'extrémité. Également en fleurs, des pampres-soies, avec leurs fines feuilles en forme de doigts, venaient s'unir à d'autres plantes friandes d'ombre, formant ainsi la pointe du triangle. En marchant de long en large dans l'espace exigu, Egwene repensa à Shériam. La sœur noire Shériam. Quel mal avait-elle pu faire depuis qu'elle vivait à la tour? Durant le règne de Siouan, elle avait été maîtresse des novices pendant des années. Avait-elle usé de sa position pour brutaliser, voire convertir d'autres sœurs? Avait-elle tiré les ficelles de l'attaque de l'homme gris très longtemps auparavant? Shériam avait appartenu au groupe chargé de guérir Math. Dans un cercle avec tant d'autres sœurs, elle n'avait pas dû pouvoir faire grand-chose. Mais tout ce qui la concernait devenait suspect. À dire vrai, l'affaire était énorme. Avant la nomination d'Egwene, Shériam était une des dirigeantes à Salidar. Qu'avait-elle détruit discrètement? Quel secret avait-elle livré aux ténèbres? Avait-elle été informée longtemps à l'avance du plan d'Elaïda visant à renverser Siouan? Sœurs noires toutes les deux, Galina et Alviarine avaient joué un rôle majeur dans cette machination. Du coup, il semblait logique qu'elles aient prévenu d'autres traîtresses. L'exode d'une moitié de la tour, l'installation à Salidar et le temps perdu à y débattre sans fin, faisait-il partie des plans du ténébreux? Et l'accession d'Egwene au poste suprême? Sans le savoir, était-elle la marionnette de ses ennemis? Tu réfléchis dans le vide, ma fille. Ne joue pas à ça. Même avant de connaître la liste de Vérine, Egwene soupçonnait le ténébreux d'être impliqué dans le schisme. À l'évidence, des Aes Sedai divisés lui faisaient beaucoup moins peur qu'une tour unie et solidaire, rangée derrière une dirigeante respectée. À présent, l'affaire était plus personnelle. D'avoir été trompée ainsi, Egwene se sentait comme Sally. Un instant, elle se demanda si elle n'était pas bel et bien la bouseuse pour laquelle beaucoup de sœurs la prenaient. Si Elaïda avait été la dupe de la Jeune Noire, elle n'avait rien à lui envier. En regardant deux chères d'Amirline s'affronter, chacune secondée par une de ses espionnes, le ténébreux avait dû se payer de bonnes tranches de rire.
« Après des années d'observation, je ne sais toujours pas ce qu'il veut, ni pourquoi il le veut »,
avait dit Vérine. « Alors, comment savoir s'il aimait rire ?» La chère d'Amirline des rebelles frissonna. Quoi qu'ait fait ce monstre, elle lui mettrait des bâtons dans les roues. Lui résister et lui cracher dans l'œil, même s'il finissait par gagner. Le mantra des Aiel.
Eh bien, pour un soupir, c'est un soupir,
dit la voix de Siouan. Egwene se retourna. Peinée, elle s'avisa qu'elle ne portait plus une robe de dirigeante, mais une armure complète, comme un soldat qui part ferrailler. Dans une main, elle serrait deux lances Aiel. Elle dissipa tout cet attirail et fit revenir sa robe.
Siouan, tu devrais peut-être faire apparaître une chaise et t'y asseoir. Il s'est passé quelque chose.
Quoi donc?
Avant tout, Shériam et Moria sont des sœurs noires.
Quoi? Quel est ce délire? Je voulais dire, quel est ce délire, mère?
Ça n'a rien de délirant. La stricte vérité, hélas. Il y a d'autres traîtresses, mais je te transmettrai leur nom plus tard. Pour l'instant, nous ne pouvons pas les incarcérer. Pour préparer un plan, il me faut au moins une soirée. Nous frapperons très bientôt, mais jusque-là, il faudra surveiller de près Shériam et Moria. Ne reste pas seul avec elle, surtout.
Siouan secoua la tête, incrédule.
« Quel est ton niveau de certitude ? »
demanda-t-elle.
« Certitude maximale. Surveille ces femmes, Siouan, et réfléchis à ce que nous pourrons faire. Avant de me décider, je veux entendre tes suggestions. Il nous faut capturer ces sœurs en douceur, puis démontrer que cette démarche était justifiée. »«
Ça risque d'être dangereux, »
dit Siouan.
J'espère que tu sais ce que tu fais, mère. Si je me trompe, j'assumerai toutes les conséquences. Mais je ne m'inquiète pas trop. Comme je l'ai déjà dit, beaucoup de choses ont changé.
Su-hwan inclina la tête.
Tu es toujours prisonnière? Pas exactement. Elaïda a...
Egwen hésita, perplexe. Quelque chose ne tournait pas rond.
Egwen?
Demanda Su-hwan, de nouveau anxieuse.
Je...
commença la jeune femme. Elle n'alla pas plus loin. En elle, quelque chose tentait de l'attirer et d'obscurcir son esprit. Quelque chose tira Egwen en arrière. Alors que Tel Ahanriod se volatilisait autour d'elle, la jeune chère Damirline rouvrit les yeux dans sa cellule où Nicolas, terrorisé, lui secouait un bras.
« Mère !»
s'exclama-t-elle.
« Mère !»
Nicolas portait une plaie sanglante sur la joue. Tandis qu'Egwen se rasseyait, les yeux dans le vague, une explosion retentit, assez puissante pour que la tour entière s'effondre. Terrifié, Nicolas s'accrocha au bras d'Egwen.
« Que se passe-t-il ? »
demanda celle-ci.
« Des créatures de ténèbres !»
hurla Nicolas.
« Des serpents volants qui nous bombardent de flammes et de tissages inouïs ! Ces monstres nous détruisent ! Mère, c'est Armon Gaïdon ! Nous sommes fichus !»
Egwen céda un moment de panique incontrôlable. Armon Gaïdon ? L'ultime bataille. Dans le lointain, Egwen entendit des cris ponctués par les exclamations d'une bande de soldats et de champions. Non, non, elle devait se contrôler. Des serpents qui volent et manient le pouvoir de l'unique. Ou au moins, dont les cavaliers maniaient le pouvoir. Egwen se débarrassa de ses couvertures et se leva d'un bond. Si ce n'était pas Armon Gaïdon, ça promettait d'être aussi dévastateur. Les Seanchaniens attaquaient la tour blanche exactement comme Egwen l'avait vu en rêve. Face à ce danger mortel, elle n'était pas capable de canaliser assez de pouvoir pour allumer une bougie. Alors, pour riposter...